Tout de suite, rendez-vous en prison avec Christophe, Olivier, Patrick, Richard, Thierry, Teddy et Taoufik, accompagnés de Sarah Louis et Jean-Michel Grémillet. Racine en prison, épisode numéro 1.
L'heure bleue sur France Inter.
Faible amusement d'une douleur si grande. Je connais Bérénice, et je ne sais que trop bien que son cœur n'a jamais demandé que le mien. Je l'aimais, je lui plus. Depuis cette journée, dois-je dire funeste, hélas, ou fortunée, sans avoir un aimant d'objet que son amour, étrangère dans Rome, inconnue à la cour, elle passe ses jours, Paulin, sans rien prétendre que quelques heures à me voir, et le reste à m'attendre.
Ce soir et demain soir, deux émissions exceptionnelles, nous vous emmenons en prison. Fruit d'un travail d'une année, à raison d'un entretien avec des prisonniers dans la prison d'Arles, une fois tous les 15 jours. Demain, ce sera la poésie, la culture en prison, mais ce soir, c'est Racine à la prison d'Arles. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique, eh bien, nous avons choisi, et ce n'est pas un hasard, Patti Smith, Because the Night.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Because the night belongs to love. Because the night belongs to life. Because the night belongs to love. Racine est un auteur qui est pris dans un tel mythe. Il y a un tel mythe racinien dans la culture française. Racine a tellement alimenté, je dirais, tout l'apprentissage de tous les jeunes Français à l'école ou au lycée. Il a fait l'objet de tellement de dissertations, de tellement de commentaires professoraux. Il est passé à la fois pour, disons, l'exemple le plus pur de ce qu'on appelle mythologiquement la clarté française et aussi la psychologie des passions. Bref, il est pris dans une sorte de, comment dirais-je, de loi culturelle extrêmement forte. Par conséquent, secouer cette loi et la secouer sans trop de gratuité, d'une façon qui ne soit pas purement subversive facilement, je pense que c'est en effet une entreprise difficile, c'est certain. Il est très difficile de monter un spectacle sans avoir présent dans le travail contre quoi on lutte. Et là, on lutte contre une tradition, contre un passé, contre un poids de la loi culturelle qui est extrêmement fort.
C'est avec la voix de Roland Barthes que nous commençons ce voyage en prison, ce voyage qui va durer 2 soirs et qui pour nous a duré 1 année. Je dis « nous », ce « nous » comporte Sarah qui est dans le même studio que moi en ce moment. Elle va vous raconter notre aventure, mais il faut expliquer comment nous sommes rentrés en prison. Comment je suis rentrée en prison ? Je suis rentrée en prison il y a 4 ans grâce à Joël Pommerat, dont j'estime et admire le travail, et qui lui-même, un beau jour de Noël, m'avait convié à une représentation des prisonniers dans un quartier de haute sécurité de cette prison d'Arles. J'avais senti une émotion très forte, un pacte de loyauté s'était institué entre les prisonniers, Joël Pommerat, l'équipe de Joël Pommerat, et Jean-Michel Grémillet, un activiste de la nécessité de mieux vivre en prison, m'avait alors parlé et m'avait dit « ça vous intéresse de travailler en prison ?» J'avais dit oui. Il m'a proposé de travailler avec une metteuse en scène qui est aussi actrice et avec qui j'ai commencé cette aventure. Merci Sarah Louis d'être avec nous ce soir. Merci aussi pour toute cette année qui va continuer, je l'espère, l'année suivante d'une autre façon. Merci pour tout ce que nous avons vécu ensemble. Je voudrais qu'on commence par parler de vous avant d'entendre les prisonniers dont nous avons recueilli la parole pendant toutes ces séances. Parce que vous, la première fois que j'ai été présentée à vous, j'ai réalisé que je vous connaissais. Je vous connaissais pas personnellement, je vous connaissais parce que je vous avais vu dans le noir d'une salle présenter un spectacle. C'était il y a plus d'une dizaine d'années, c'était sur les écrits de prison de Michel Foucault. Comment êtes-vous arrivé dans cette aventure à la prison d'Arles ?
Alors en effet, on s'était rencontrés au Festival Impatience parce qu'on présentait Foucault 71 qui était le tout premier spectacle qu'on avait créé avec un collectif qui s'est appelé le collectif F71 suite à ce spectacle. Et je suis rentrée en prison de manière totalement empirique, c'est-à-dire que c'est vraiment le travail autour de Foucault et de cette pièce qu'on a montée qui était une sorte de chronique de l'année 71 dans laquelle il y a plusieurs événements marqueurs pour Foucault mais dont un qui est vraiment très important. Parce que Foucault va se déplacer de l'endroit d'intellectuel sachant qu'il est pour aller militer et créer le GIP, le groupe d'information sur les prisons. Donc suite à cette aventure-là, Foucault va préparer ce qui va devenir Surveiller et punir, en fait, qu'il écrira 2 ans plus tard. Et très empiriquement, nous avons récolté beaucoup de matière pour fabriquer ce spectacle. Et puis on s'est mis à jouer en prison ce spectacle-là et puis à y faire des ateliers. Et cette manière de travailler en prison et de faire des allers-retours entre nos spectacles et notre expérience de la prison est devenue une nécessité, est devenue quelque chose de tout à fait normal en fait. Et voilà comment pour la première fois j'ai commencé à faire des ateliers en prison de manière ponctuelle, c'est-à-dire sur des projets. Et ça a duré pendant une petite dizaine d'années, oui, de manière assez irrégulière, avec des sujets très différents, comme celui du corps, comme celui de la prison, du tatouage, par exemple, des choses comme ça. Et on s'est retrouvés, toutes les deux, à travailler à Arles, à la maison centrale d'Arles, qui est donc une maison pour longue peine, autour de l'idée de créer un atelier de création radiophonique. Donc on est allé à la rencontre des participants qui avaient envie de faire ce projet avec nous.
Tous des volontaires, il faut le préciser.
Ils étaient 7 au final.
On a travaillé dans une toute petite bibliothèque où les garçons, on va les appeler comme ça, les 7 prisonniers, ont apporté du café dans un thermos, ont installé les chaises, les tables, dans une ambiance au début pas vraiment antipathique, mais enfin, ils regardaient qui on était, ils nous observaient. Assez vite, la relation s'est transformée en relation qu'on peut dire presque d'amitié.
Oui, c'est vraiment la partie la plus intéressante, je crois, de ce projet. C'est comment est-ce qu'on fabrique, comment est-ce qu'on tisse une relation, comment est-ce qu'on invente une relation.
On peut dire l'amitié,
oui,
maintenant.
Oui, d'amitié. Oui, oui, maintenant, on peut dire ça. En tout cas, il s'est passé des choses très, très fortes parce qu'on a cherché ensemble à créer un espace, je crois, qui nous appartenait. On a créé ensemble des outils pour ouvrir cet espace qui était le nôtre, qui est un espace qui n'existe pas dans la vraie vie, qui n'existe ni à l'intérieur ni à l'extérieur, mais qui était un espace de débat très libre, de parole très libre, autour des œuvres et autour d'une œuvre qu'on a fini par choisir, qui était Bérénice.
Alors notre cahier des charges était très précis, celui que nous avait donné Jean-Michel Grémillet. Il ne fallait pas venir faire de l'animation culturelle. Il fallait pas venir les nourrir d'un savoir, entre guillemets, que nous ne possédons peut-être pas, en tout cas pas moi. Il fallait au contraire être à leur écoute, dans leur désir, et que ça soit eux qui choisissent le sujet sur lequel nous allions travailler pendant une année. Nous avons beaucoup vagabondé, et ce sont eux qui ont choisi Racine. Racine, pourquoi, selon vous, Sarah Louis ?
Enfin, on leur a proposé quand même, Laura.
Oui, mais on leur a proposé plein de sujets, plein d'auteurs.
On leur a proposé plein de sujets, et Racine est arrivée, Bérénice est arrivée, et on s'est dit, ok, on se fixe là-dessus, ça va être ça notre fil rouge. Eh bien, quand j'y pense maintenant, je me dis, c'est vraiment pas anodin d'avoir choisi Bérénice. Parce que c'est quand même une tragédie de la parole, de l'absence de parole, de la difficulté de dire. Et pendant 5 actes, c'est quand même un homme qui n'arrive pas à dire à une femme qu'il doit la quitter, il lui a fait une promesse, il a fait la promesse de l'épouser, il ne pourra pas aller au bout de cette promesse, il va devoir la quitter parce qu'il devient empereur et qu'un empereur ne peut pas épouser une reine et que Bérénice est reine. Eh bien, je trouve que de travailler autour de comment est-ce qu'on dit ou qu'on n'arrive pas à dire les choses dans un lieu comme la prison, c'est pas rien.
On a entendu tout à l'heure la voix de Roland Barthes, c'était une archive INA de 1974. De Roland Barthes, il sera question dans ces deux émissions consacrées à la culture en prison, car nous avons relu le texte magistral de Roland Barthes intitulé « Sur Racine ». Nos amis les prisonniers ont lu aussi ce texte, et la nécessité d'introduire à l'intérieur de la vie quotidienne de ces prisonniers qui travaillent tous les matins, de manière volontaire aussi, la possibilité de s'élever par la langue a été, je crois, le fer de lance et la colonne vertébrale de cette aventure commune que nous avons vécue avec eux et avec vous, Sarah. Je vous propose de les écouter sur la nécessité de la pureté des mots.
La culture, certes, quand tu étais au QI pendant des années et tout, tu penses un peu à autre chose, tu vois. Mais moi, j'apprends plein de trucs et je suis content. J'espère d'en prendre encore. Voilà, j'apprends un autre parler aussi que celui qu'on entend tous les jours ici en détention. C'est-à-dire que si je préfère pas dire tout ce qu'on entend dès le matin à 7h.
Ah bon, si, moi ça m'intéresse. On entend quoi?
Nique ta mère, ta grand-mère la chatte à ta grand-mère, t'es un pédé, t'es un enculé, tu m'as pas fait passer ton... Voilà, ils se font la bise, c'est comme ça, c'est tous les jours. Puis nous, c'est pas de notre génération, je veux dire, moi j'ai pas connu ça avant. Voilà.
Quand on est là, et qu'on rentre dans la discussion, vous allez prendre la parole et tout, on n'est plus en prison. On sent carrément une différence. Et pendant un moment, on se sent carrément citoyen, débatteur, avec une libre parole, une libre pensée qui nous permet d'exprimer. Et ça reste même bénéfique pour la personne parce qu'elle elle donne de manière pacifique ses idées et tout. Et ça fait. Et dans la culture, je crois que ça doit aussi servir ça en prison. C'est-à-dire que je m'imagine que les gars qui vont vraiment à l'atelier peinture et qui peignent, parce qu'ils sont devant la toile, ils sont plus dans la prison. Ils sont dans l'expression de ce qu'ils veulent mettre sur la toile. La lecture d'un livre, c'est pareil. Quand on s'imprègne dans un livre, on quitte l'entourage, on rentre dans le livre. Même à un moment donné, même si on n'a pas des talents d'acteur pour discuter, enfin, quand on déclame Titus et Bérénice, à un moment donné, moi, je me suis carrément imprégné de ce que je disais, quoi. Je me dis, tiens, qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que ça va apporter, comment tu peux le dire et tout. Alors après, et ce sont des choses que moi j'ai appris, même la philo, j'en faisais pas, j'en ai appris à en faire en prison. La prison permet aussi, pour ceux qui le veulent, mais il faut faire des efforts, de quitter ce monde carcéral qui nous aspire pour aller dans des moments comme ça, ou de respiration, où vraiment on peut y trouver vraiment de très belles choses, quoi. Enfin, c'est pas, parce qu'on est tellement privé de tout, on parlait des odeurs, que ce moment-là, c'est vraiment un moment privilégié, alors que peut-être dehors, ça aurait été un moment comme un autre, mais là, c'est vraiment un moment privilégié, et moi, j'en savoure chaque instant. Voilà. Finalement, nous avons les mêmes préoccupations que les femmes qui étaient sous la domination masculine. C'est-à-dire qu'elles devaient peut-être savourer pendant quelques instants entre elles des moments de discussion et tout ça. Puis je pense qu'il n'y avait pas que des hommes qui soumettaient les femmes. Il y a peut-être dans le mouvement d'émancipation des femmes, il y a eu des hommes qui se sont investis. Et donc je pense qu'à un moment donné, elles ont dû savourer le fait qu'elles pouvaient à un moment donné sortir la tête de l'eau. Et nous, c'est ces moments-là, enfin moi, ça me fait carrément sortir la tête de l'eau et de sortir un peu de l'été noir du monde carcéral qui essaye chaque fois de vous mettre la tête sous l'eau, quoi. Voilà.
Tu parlais du pouvoir des mots tout à l'heure. Tu disais que dès le début de la journée, il y avait des mots qui étaient prononcés.
Ouais, c'est vraiment très très désagréable.
Et quand tu entends Racine, qu'est-ce que tu entends dans le pouvoir des mots? Qu'est-ce que ça veut dire parler, au fond?
Parler, c'est parler avec des bons mots. Il y a quelque chose de la joie, j'allais dire des fleurs presque, tu vois. Enfin, je sais pas, des belles choses, autre chose que ça. Ben, en tout cas, nous, on en a vraiment besoin ici, quoi. Enfin, ça, c'est sûr. Oui.
Le verbe est une arme pour nous ici.
Oui, oui. Oui.
Ah oui, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Souvent on est confronté à, on va dire, l'autorité ici, et pour se faire entendre, il faut choisir les bons mots, être très convaincant, même si des fois pour eux ça paraît désagréable, mais il faut dire ses vérités et faire valoir ses droits par le verbe. Donc moi, souvent, bon, moi j'ai une apparence qui joue pas en ma faveur ici. Donc souvent, je dis
pourquoi
que j'ai... Parce qu'on présume beaucoup de choses me concernant. Les
pourquoi
grands, les costauds...
Parce qu'on est à la radio, on ne voit pas. Hein.
Oui, parce que je fais 132 kilos, 1m95. Donc on pense
donc
souvent
on a peur
que
de
je
toi.
Suis quelqu'un de violent. Qui pourrait... On présume que si je m'énerve, alors que je m'énerve jamais.
Ça aussi, c'est
donc
bizarre,
je dis souvent que j'ai la main molle et le verbe haut.
Première perspective sur Bérénice, c'était une histoire d'amour trahi, des enjeux divers et variés comme le choix entre la raison d'État et la raison du cœur. On a longtemps débattu sur le fait que Titus n'aimait pas Bérénice. Moi, quand tout le monde est contre quelqu'un, j'ai souvent tendance à me mettre de son côté. Donc j'ai ardemment défendu Titus, à mes risques et périls. Mais au jour d'aujourd'hui, ça a évolué dans le sens où mais je renie pas cette pensée-là. J'ai encore des élans intellectuels qui vont dans ce sens-là vis-à-vis du texte de Racine. Mais au jour d'aujourd'hui, la question pour moi ne se pose pas si Titus, Antiochus ou qui que ce soit aimait Bérénice, mais de qui était l'objet Bérénice, de quel était l'objet, de quels enjeux sociologiques elle était le centre, parce que Bérénice est le centre de la pièce. Mais c'est aussi le centre d'une attention qui est très particulière des hommes de la pièce et des attitudes qu'ils ont envers elle, qui est très révélatrice des mœurs patriarcales de l'époque, mais qui transpose au jour d'aujourd'hui, qui se colle parfaitement. Si Nathalie Azoulay avait poussé plus loin l'histoire, c'est-à-dire que si on mettait Bérénice comme une nana de 20 ans en 2018 et Titus pareil, on pourrait très bien, avec le milieu professionnel culturel et autres, en fait, retranscrire les mêmes dispositions de suprématie masculine d'utilisation comme un objet, parce que tout le long de la pièce, au jour d'aujourd'hui, je ne vois qu'une chose, c'est qu'on s'échange Bérénice. Mmh. Bérénice est un objet. C'est un objet de conquête, pas seulement militaire et politique, mais de conquête personnelle. Mmh. Elle est passée du père au fils, mais ce n'est pas elle qui est passée. C'est on l'a passée. Le frère a voulu la donner à Antiochus. Vous voyez, il y a des mots qui sont très forts. Je veux dire, c'est-à-dire que Bérénice, elle a été basculée comme ça d'un homme à l'autre. Et les enjeux n'ont pas été des enjeux tellement sentimentaux, en fait. Mais ils avaient d'autres atouts qui étaient très loin des sentiments, justement. Leur mural parle de la révolution sexuelle qui a encore plus enchaîné la femme.
Racine a eu le bon goût de ne pas orienter, mais de ne faire que les faits, et de laisser au lecteur la possibilité d'avoir une opinion, aussi bien machiste si on est du côté de Titus, que féministe si on est du côté de Bérénice. Mais il s'est bien gardé de prendre une histoire contemporaine pour ne pas avoir seulement les foudres de l'opinion qui regarderait à l'instant présent une histoire qui aurait pu être controversée par les autorités royales de l'époque. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une histoire universelle et que du moment qu'elle est universelle, elle ouvre tous les champs du carcan de la position de Bérénice et le carcan de la position par rapport à l'opinion publique, c'est-à-dire au Sénat. Et c'est ce qu'on retrouve à l'heure actuelle quand on est enfermé dans des carcans sociaux ou stigmatisés. Je trouve que là, c'est vraiment quelque chose qui est universel et qui permet de réfléchir et d'ouvrir tous les champs du possible sur tous les phénomènes sociétals qu'on rencontre même à l'heure actuelle et qui remontent à l'origine des sociétés structurées. Puisque là, Titus a fait le choix du pouvoir. Et quand on est enfermé dans un certain carcan, peut-être qu'on n'a pas la liberté de pouvoir...
Titus ne fait pas le choix du pouvoir.
En fait, le peuple décide pour lui, quelque part. Parce qu'on va dire, lui, il exprime la raison d'État qui est le peuple. Donc en vrai, je pense qu'au fond de lui, on s'est souvent posé la question, est-ce que Titus aimait Bérénice ou pas? Je pense qu'il l'aimait, je pense qu'elle, elle l'aime. Et que les autres... figurant de la pièce l'aime aussi, mais il n'y a pas que ça. Donc, comme l'a longuement expliqué Christophe, on peut calquer ça sur le modèle politique, les postures politiques, les discours politiques, et ça rentre parfaitement dans ce cadre-là. Et je pense que cette histoire, elle est commune à tout un chacun, puisque quelque part, on peut se représenter dans les personnages, parce que qui n'a pas vécu une histoire qui serait similaire ou qui se rapproche fortement de l'histoire originale. Donc, dans ce sens-là, on a tous vécu des expériences de la sorte où il y a des dilemmes et des enjeux et qu'on fait un choix de raison, peut-être pas un choix de cœur. Donc, mon point de vue général sur la pièce, il est sur cet angle-là, sur ce paradigme-là.
D'ailleurs, Racine aussi, il a peut-être laissé le flou parce que, historiquement, Bérénice, après cet épisode-là, on n'a plus de traces d'elle. De sa sœur, oui. De Drusilla, on a des traces, mais d'elle, on n'a plus... On ne sait pas ce qu'elle est devenue par la suite. Alors peut-être que Racine a laissé le flou là-dessus parce qu'il n'avait pas de matière pour voir ce qu'elle est devenue aussi. C'est ça aussi, peut-être.
On peut se demander aussi si c'est Racine étant un homme, si son écriture n'est pas masculine et que seuls les destins des hommes ont une continuité et une terminaison. Et que Bérénice peut lui importer, en fin de compte, en fait, quand on sache la suite, puisque c'était le destin des hommes qui importait. C'est vrai que tout au long de la pièce, on peut aussi dire que Bérénice, selon Racine, n'existe qu'au travers des tourments des hommes qui l'entourent. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est l'objet de leurs désirs, mais aussi de leurs tourments.
À partir du moment que Titus lui dit non, qu'Antiochus, elle ne le veut pas, elle n'existe plus. Il n'y a plus de Bérénice, il n'y a plus de raison d'être de la pièce. Là. Elle est morte, il n'y a plus. La fin de Bérénice, c'est là.
Alors que Bérénice... C'est pas ni Titus ni Antiochus.
Ah oui.
Bérénice, elle est pour elle-même.
Mais Bérénice, elle aime qui quand elle aime Titus?
L'homme ou la personne?
Ce qui l'incarne.
Elle aime Rome. Hein. Le pouvoir à Rome, il est centralisé quand même. Hein. C'est à Rome le pouvoir. Il y a des sénateurs germains, des Bretons qui sont sénateurs à Rome. Hein. Ils sont là pour parce que le pouvoir est là. Le pouvoir est à Rome. Hein.
Une traître par rapport à son peuple, moi je suis pas d'accord, parce que le peuple vaincu, si Bérénice, leur reine, leur permet de pas vivre sous un joug autoritaire et dictatorial grâce à elle, et d'avoir un conquérant, mais bienveillant, il ne peut lui être que reconnaissant.
C'est toute la question de la colonisation, excuse-moi, on est en plein dedans.
C'est pas la question de la colonisation, c'est la question de Bérénice, de son rôle. Elle a le choix, elle avait deux choix, ne rien faire ou ça. C'est justement ces sociétés qui se sont construites sur des mythes, que les femmes étaient plus faibles, moins intelligentes, qu'elles étaient toujours absentes parce qu'elles font des gosses. Enfin, c'est sur tous ces mythes-là qu'aujourd'hui, le rôle de la femme, il est dénigré et sa posture, elle est plus basse que celle de l'homme. C'est parce que c'est basé sur des mythes, justement.
Voilà,
si on n'est pas basé sur des mythes, mais sur la réalité, c'est-à-dire qu'on prend une vérité pour s'appuyer dessus pour en créer une autre, à ce moment-là, oui. Et alors, à ce moment-là, la femme, elle n'est pas moins intelligente, elle n'est pas moins forte, elle n'est pas plus absente. Ça, c'est la vérité. Sur ça, tu peux t'appuyer. Ça, c'est la dalle dont je te parlais tout à l'heure pour construire la maison. D'accord ? Par contre, le mythe, c'est de dire que la femme, elle est plus faible et moins intelligente.
Historiquement, on ne sait pas du tout ce que deviendra Bérénice.
Pas de trace. Pas de trace, ni chez Flavius Josèphe, ni chez Tacite, ni chez Suétone.
Et lui, Titus, a eu un règne très court. Le plus
très court,
court
deux ans. Deux ans,
pourquoi
non, pas le plus court. Il meurt de la peste. Selon Flavius Josèphe, il a eu un règne court, mais très bon.
Il était aimé, quoi.
Aimé. Par contre, parce qu'il a eu une vie de débauche assez... Mais c'est-à-dire, il était presque prince, il n'était pas encore Pontifex Maximus, mais Pontifex Maximus, c'est le gardien du temple, en plus, c'est l'équivalent des papes, maintenant, non seulement c'est empereur, mais en plus, c'est toi qui garde le pont, qui va où il y a les honneurs, quoi, pour le culte. En même temps qu'empereur, tu es aussi gardien du culte. C'est pour ça que le Pontifex Maximum, c'est le top du top. Il n'était pas. Il était juste tribun du Sénat. Il était d'abord tribun de la plèbe, ensuite tribun du Sénat. Il vivait de débauche. Il a eu une vie de débauche jusqu'à la mort de son père. Hein. Son père, il a régné longtemps parce que C'est un des rares qui a régné autant, quoi.
Je suis tombée sur un bouquin à la Bibliothèque universitaire d'Avignon et je trouve un petit texte de Charles Péguy qui date de 1910 sur Racine et qui dit « La cruauté est partout dans Racine. Elle fait le tissu même de son œuvre, la texture. Ses enfants, au fond, sont plus cruels que ses femmes, avec l'aggravation de l'enfance, de l'apparente, de la prétendue innocence de l'enfance. » Et ces femmes sont naturellement plus cruelles que ces hommes, ce qui n'est pas peu dire. Ou, pour aller plus profondément, peut-être que ces hommes sont femmes. Ils sont tous dévirilisés, et c'est la cruauté féminine même que l'on retrouve en eux. Et il y a une petite note de bas de page qui est écrite par André Suarez, 1909, qui dit « Racine est la seule femme en art qui ait jamais eu de génie. »
Non, je n'écoute rien. Me voilà résolu. Je veux partir. Pourquoi vous montrer à ma vue? Pourquoi venir encore aigrir mon désespoir? N'êtes-vous pas content? Je ne veux plus vous voir.
Mais de grâce, écoutez.
Il n'est plus temps.
Madame, un mot.
Non.
Dans quel trou elle jette mon âme? Ma princesse, d'où vient ce changement soudain?
Mes voix ne m'avaient Jésus, sauvez-nous tous à la vie éternelle.
Chez Racine, souvent on meurt chez Racine, ou on peut être possédé comme Phèdre, ou ça se termine dans l'amour est très très noir. Là, l'amour pour moi est très très lumineux. Et c'est une femme qui arrive à faire de sa tragédie d'amour quelque chose de beau, enfin quelque chose qui élève, oui. C'est l'amour face au pouvoir, disons. Peut-être que c'est une mort dans la vie, mais que c'est une grâce ailleurs, je dirais.
Ah, cruel. Est-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait? Hélas, je me suis crue aimée. Au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos lois quand je vous l'avouais pour la première fois? À quel excès d'amour m'avez-vous amenée? Que ne me disiez-vous, princesse infortunée, où vas-tu t'engager et quel est ton espoir? Ne donne point un cœur qu'on ne peut recevoir. Ne l'avez-vous reçu cruel que pour le rendre, quand de vos seules mains ce cœur voudrait dépendre.
Vous avez entendu et sans doute reconnu la voix sublime de Ludmila Michael qui interprétait Bérénice de Racine dans la mise en scène de Klaus Michael Gruber. Les personnes qui ont eu la chance de voir cette mise en scène s'en souviendront toujours et cette mémoire est de feu, c'était en 1986, car Klaus Michael Gruber nous a fait entendre Racine autrement. La pureté de Racine, l'intensité de Racine, les prises de risque dans la langue de Racine, les jeux amoureux, les jeux de violence aussi entre les hommes et pas seulement entre Titus et Bérénice. Et depuis, l'amour de Racine dans le théâtre français continue à affoler les metteurs en scène, que ce soit des femmes jeunes ou des metteurs en scène confirmés, pas de saison où il n'y ait pas 3 à 4 Racine et notamment des Bérénice. Comment expliquez-vous cela, Sarah Louis?
C'est une question qu'on s'est posée avec les participants de l'atelier justement. Pourquoi Bérénice? Est-ce que Bérénice est actuelle? Évidemment, tout le monde a des histoires d'amour, tout le monde est pris dans des désirs contradictoires, tout le monde est déchiré. Et je pense que ce sont à la fois des choses très simples et très universelles. Et puis, je crois que dans l'exercice de la langue de Racine, il y a quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est étirer les contraires. C'est vraiment comment est-ce que cette langue est une espèce de cadre et comme un filet qui contient le chaos. Et travailler ça, par exemple, dans un lieu comme la détention, je pense que ça a beaucoup de sens et je pense que c'est ça qui a aussi beaucoup interpellé les participants. Ils nous ont dit à quel point la nécessité d'une langue qui tient debout, qui aide à tenir debout, qui aide à sortir des invectives du quotidien, des insultes, etc., est quelque chose qui élève, qui aide. Et Racine, dans la structure même de l'alexandrin, c'est intéressant parce qu'il y a un hémistiche dans l'alexandrin. On peut se dire, tiens, à quoi il sert cet hémistiche? Et je trouve que le fait qu'au milieu, au bout de 6 pieds, il y a comme une petite pause. La structure même d'un vers contient tout. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait au milieu de cette phrase? Est-ce qu'on recule? Est-ce qu'on avance? Tout Racine, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? Est-ce que je dis? Est-ce que je dis pas? Comment je dis? Si j'arrive pas à dire, il faut que je demande à quelqu'un d'autre de dire à ma place. Et cette hésitation, cette tension, cette contradiction et cette difficulté d'avoir les mots justes, c'est quelque chose qui est très 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 fort. Alors là, je parle de la prison parce que c'est vraiment l'objet de notre émission. Mais c'est vrai dans la vie et c'est vrai dans le théâtre, évidemment.
Alors, vous avez fait travailler en tant que metteuse en scène, travail à la table, comme on dit dans le jargon théâtral, nos amis les prisonniers sur le texte de Racine. Certains ont un peu gueulé, ils se sont dit qu'ils en étaient pas capables, ils se sont dit aussi qu'ils seraient peut-être ridicules, etc. Mais nous avons toutes les deux tenu bon, nous avons eu raison, parce qu'ils ont éprouvé beaucoup de plaisir à dire tout ce texte de Bérénice. Mais il s'est passé aussi autre chose, c'est que le sujet de Bérénice, les a absolument passionnés. Certains avaient plus ou moins entendu parler de Bérénice, mais aucun d'entre nous n'avait entendu, car quand on lit, relit à haute voix un texte dans cette prison, dans cette bibliothèque de la prison d'Arles, eh bien nous avons compris, en tout cas personnellement, moi j'ai compris des enjeux différents de cette pièce que j'avais entendue au théâtre. Et comme Roland Barthes le disait admirablement dans son Sur Racine, c'est Bérénice qui désire Titus, Titus n'est lié à Bérénice que par l'habitude, Bérénice est au contraire liée à Titus par une image, ce qui veut dire chez Racine par Eros, eh bien d'Eros il sera beaucoup question dans la prison et dans cette émission de ce soir, car très vite, eh bien, nos amis vont nous dire que ce qui leur saute aux yeux dans la compréhension de ce texte de Racine, c'est la domination sexuelle. Et comme nous avions la possibilité d'inviter trois personnes, ils ont souhaité inviter qui ?
Laure Murat. Laure Murat qui a écrit un livre qui s'appelle « Une révolution sexuelle, point d'interrogation, réflexion sur l'après-Weinstein ». Et en fait, un des participants avait lu un article dans Les Inrecuptibles sur ce bouquin de Laure Murat. Il l'a lu et il nous a écrit une petite lettre. Parce que ce jour-là, il pouvait pas venir à l'atelier. Il nous a écrit une petite lettre en disant « Chère Laure et Sarah, aujourd'hui, je ne peux pas venir car j'ai choisi l'amour. » Alors, sa chérie était venue le voir au parloir et il pouvait pas être là à l'atelier. « Mais j'ai une proposition à vous faire. J'ai lu le livre de Laure Murat et il me saute aux yeux vraiment que il faudrait considérer Bérénice comme un objet, voilà, comme une femme qui est l'objet de pouvoir. Comment est-ce qu'on peut essayer de tirer l'œuvre de Racine, Bérénice, dans cet état, à la lumière de ça, quoi. Alors, on en a été un petit peu surprises toutes les deux, mais on s'est engouffré là-dedans, et ça a été absolument passionnant. Et on a fait venir Laure Murat.
Et on a eu beaucoup de chance, parce que Laure Murat est professeure à Los Angeles. Elle était venue pour les vacances, en France. Elle a accepté de jouer l'aventure. Écoutez ce que cela a donné.
Si un livre sur la situation actuelle peut éclairer des textes du XVIIe siècle, je trouve ça magnifique parce que moi j'enseigne la littérature et j'explique tout le temps à mes étudiants que ce soit écrit au Moyen-Âge, au XVIIe ou au XIXe, il y a toujours une actualité dans les textes. Et c'est pour ça que ça, c'est ce qui en fait de grands classiques qu'on lit et qu'on relit.
Oui, une sorte de résonance dans exactement, l'histoire.
Exactement.
Quelque chose qui se répète ou qui se perpétue.
Oui.
Et qui nous parle toujours, en fait.
Un des problèmes que révèle l'affaire Weinstein, c'est un problème systémique. C'est un problème enraciné dans la société depuis très très longtemps, qu'on pourrait résumer comme étant le problème du patriarcat. Mais enfin, c'est beaucoup plus que ça, et des choses différentes aussi. Et donc, c'est ce système-là qui est à l'œuvre aussi dans la littérature, bien entendu, et les façons d'y échapper aussi.
Donc, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que donc c'est un texte du XVIIe siècle, mais qui parle d'une histoire qui se déroule bien avant aussi. Donc en fait, on a une triple résonance entre l'époque de Titus, l'époque de Racine, et nous aujourd'hui.
Exactement, exactement. Et d'ailleurs, si vous prenez, je sais pas, les Trois Mousquetaires, par exemple, ça se situe aussi au XVIIe siècle. C'est écrit au XIXe siècle et on peut trouver des résonances aujourd'hui aussi.
C'est rare quand vous faites une démarche d'apprentissage, de connaissance, et que ça vous bouleverse en fait votre perspective, votre perception du monde, on peut dire, hein, puisque Bérénice fait partie du monde. Enfin, moi, je voyais Bérénice comme une histoire amoureuse en défendant tout en Titus que je disais. Forcément amoureux de Bérénice. À la lecture de votre livre, ça m'était devenu impossible. C'est-à-dire que je ne voyais plus ça du tout comme ça. Je voyais ça comme un exemple sur lequel s'appuyer au travers de votre ouvrage pour expliquer beaucoup de choses. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a touché dans votre propos, dans l'interview, c'est pour ça que j'ai voulu lire votre livre, c'est que vous expliquez sans opposer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confrontation entre hommes et femmes. Vous expliquez les choses comme elles sont, et c'est par la compréhension, en fait, qu'on peut arriver à changer les choses. Non par l'affrontement ou la confrontation, c'est par la compréhension. Donc vous permettez, de comprendre les problèmes que rencontrent les femmes depuis toujours, et encore aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a semblé nouveau dans tout ce qu'on entend ou qu'on lit depuis l'affaire Weinstein. C'est que souvent, on nous oppose. Et vous, non. En fait, vous apportez un éclairage qui permet la compréhension, qui amène au dialogue. Et en fait, on sait qu'une crise réelle, Parce qu'on dit souvent, oui, la place des femmes, la parole des femmes, c'est une vraie crise. Mais une crise, c'est la rupture du dialogue. Or, vous, non. Ce que vous proposez, c'est un éclairage de compréhension qui permet d'avancer et de changer les choses autrement qu'en se plaçant dans des camps, vous voyez, dans des genres. Les gens, ils se sentaient à chaque fois, les hommes se sentaient agressés par cet élan féministe. Alors, ils se retranchaient derrière les barricades. Les femmes faisaient pareil. Et pour la première fois, en lisant votre interview, ben, j'ai vu quelqu'un qui en parlait autrement. Sans passion, mais avec beaucoup de clairvoyance, beaucoup d'intelligence.
Justement, quand j'ai fait la promotion du livre, j'ai été un peu déçue par le niveau du débat qui ressemble beaucoup à ce que vous dites. D'un côté, j'ai beaucoup été interrogée à la radio par des journalistes hommes qui commençaient tous l'entretien par « Mais Laure Murat, qu'est-ce que vous pensez des dérives du mouvement MeToo ?» Ça commençait déjà par une opposition. C'est tout ce que je voulais éviter. Ou alors, les journaux de la presse écrite me mettaient en face de femmes plutôt jeunes et qui défendent la virilité, la galanterie, etc. Donc ils prennent la défense des hommes, donc, et sont dans une logique binaire d'accusation, de défense, etc. Alors que je suis vraiment très heureuse de ce que vous dites, parce que j'ai l'impression que vous êtes à peu près le seul à avoir compris mon livre. Donc, ce que je veux éclairer, moi, ce que j'ai essayé d'éclairer, c'est deux choses. D'abord que c'est un problème structurel. Donc ça déculpabilise tout le monde. Il y a une structure qui est corrompue à la base. Il y a des raisons historiques pour ça, on peut en parler. Moi, je travaille dans une université publique en Californie. Donc le campus est le lieu par excellence du harcèlement, du viol, etc. Bon, pour des raisons évidentes, il y a une population de jeunes filles. Il y a 40 000 étudiants à UCLA, ça fait quand même beaucoup de monde, avec des gens qui ont un emploi du temps qui est très repérable, puisqu'il y a les dortoirs, le restaurant, les cours, et puis tout est sur Internet, donc c'est très facile en quelque sorte. Bon. Et il y a des histoires tout le temps, etc. Bon. Il y a des règlements extrêmement sévères, dans même les codes, les relations sociales aux États-Unis, qui sont beaucoup plus strictes et beaucoup plus codées que les relations en France, où on est quand même beaucoup plus souple. Bon. Ben, malgré ça, ça continue. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé la solution. On n'a pas trouvé la solution d'une forme d'apaisement et de circulation des désirs, des idées, vous voyez, dans un environnement qui soit pacifié. Parce que je crois que c'est possible.
Bien sûr.
Mais pour ça, il faut, bon là je vais employer un mot qu'il faudrait mieux pas utiliser, mais il faut déconstruire cette structure qui est une structure malade, elle est malade, pour des raisons qui s'expliquent historiquement. Mais pour ça, il faut que tout le monde y participe. Et je suis très frappée qu'en France en particulier, il y a une sorte de frilosité, les gens ne veulent pas débattre, ils veulent défendre leur chasse gardée, mais oui, mais les hommes, c'est comme ça, ils payent l'addition, les filles, c'est comme ça, etc. Là, je caricature, mais
c'est un peu ça
quand même. Alors qu'il y a une féministe américaine qui est célèbre, qui s'appelle Gloria Steinem, et qui propose, qui a une sorte de slogan, qui dit « il faut érotiser l'égalité ». Moi, j'aime beaucoup cette phrase, parce que érotiser l'égalité, sous-entendu, plutôt que la domination et la violence. Et moi, ça me semble un programme très ambitieux et assez excitant. Parce que c'est pas du tout évident. On n'est pas habitué à ça. Et je crois que si l'affaire Weinstein a un impact, ce que je souhaite, quelque chose de bénéfique, ce serait de faire bouger... Mais vous savez, les choses bougent de façon très petite, très, très lente, et par des micro-déplacements. Et je crois que les jeunes gens, justement, les jeunes filles, les gens qui ont entre 20 et 30 ans aujourd'hui, ils sont relativement au courant de ça. Maintenant, ce sur quoi il faut s'interroger, c'est pourquoi les hommes ignoreraient à ce point le désir et l'agrément, le plaisir des femmes. Ça, c'est curieux, parce que quand l'affaire Weinstein a éclaté, je peux vous garantir qu'aucune femme n'a été étonnée. Parce que toutes les femmes savent depuis l'âge de 5 ans qu'elles sont des objets sexuels. Toutes. Alors là, on ne me fera pas dévier de cette conviction. En revanche, ce qui m'a étonné, moi, et ce qui m'a fait un peu de peine, c'est que les hommes sont tombés des nues. Mais enfin, ces hommes, ils ont une mère, ils ont une sœur, ils ont des filles, ils ont des femmes. Enfin, je ne sais pas, ils ont des amantes, j'en sais rien. Ils ont des amis. Alors, ça veut dire qu'ils ne savent rien de la vie des femmes ? Bien entendu, ce n'est pas la même chose à Paris qu'en Afghanistan, par exemple. Il y a des traditions, il y a une histoire, etc. Mais le fil rouge, il est le même.
Oui, bien sûr.
Déjà, pour commencer, il faudrait que tout le monde soit d'accord pour identifier le problème, pour dire « c'est un problème ». Or, on a affaire à une résistance colossale, en disant « ah oui, mais non, il faut laisser les hommes draguer ». La tribune de Catherine Deneuve, c'est ça. La liberté d'importuner. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? La liberté de molester, de se frotter. Enfin, c'est bizarre, même, presque. Dans le livre, je fais un parallèle avec l'écologie. Moi, j'ai 51 ans. Quand j'étais enfant, tout le monde jetait les papiers gras dans la rue. Personne ne faisait attention. Tout le monde écrasait son mégot n'importe où, etc. Aujourd'hui, ce sont des gestes qu'on ne voit plus. Mais ça a mis 40 ans à changer. Parce que les gens n'aiment pas changer leurs habitudes. Et d'ailleurs, je comprends que les hommes résistent. Parce que c'est plutôt agréable d'être le chef. C'est plutôt agréable d'être le dominant. C'est plutôt agréable d'avoir plus de pouvoir. Et d'être mieux payé que les femmes, etc., etc. Après tout, logiquement, on peut comprendre. Je crois que l'accusation frontale est complètement stérile. Ça ne sert à rien. Et comme vous disiez au début, ça n'est... après on oppose les uns aux autres, tout le monde se fâche et puis on n'aboutit à rien. Et c'est ce que j'ai remarqué dans les débats quand j'ai fait la promotion du livre. On voit bien qu'on arrive très vite dans une impasse. Alors je pense qu'il y a vraiment la place pour un débat très fertile, très complexe de toutes ces questions. Mais il y a tellement de crispations.
La vraie égalité, elle est là. Elle est dans notre humanité. Le grand socle de notre égalité, c'est quand même l'humanité. Je veux dire, on ne peut pas s'en défaire, on ne peut pas le renier. Et aujourd'hui, quand je m'adresse à l'historienne, c'est on contemple l'histoire, on l'analyse, on la décortique, on l'interprète. Mais l'histoire, on l'écrit aussi. Là, en ce moment même, on l'écrit. Je veux dire... Et c'est à ce moment-là qu'en fait, il faut peut-être justement replacer le débat de l'égalité homme-femme sur le retour aux sources, c'est sur l'humanité qu'on a tous en chacun de nous.
En tant qu'historienne, peut-être, je vais dire une énormité, mais dans le rapport homme-femme, si vous remarquez, même dans la littérature, on dit qu'une femme a été conquise. On ne dit pas qu'un homme a été conquis, mais une femme a toujours été conquise. Le terme employé, c'est un terme de lutte. Donc, à un moment donné, même dans le rapport amoureux, on a instauré un rapport de force entre l'homme et la femme, c'est-à-dire que la femme qui cède a été conquise. Et je pense que pour se sortir, ne plus lire, quoi, ou ne plus adhérer à la littérature, il faut sortir de tous ces schémas qu'on a en nous pour arriver à redevenir, si vous voulez... une égalité qui ne soit pas... Mais on est entouré par des phénomènes qui nous mettent dans des schémas de lutte entre... qui n'ont rien à voir, quoi. Mais qui sont même utilisés dans la littérature, en fait. Je ne sais pas si... J'ai dit peut-être une énormité, mais souvent de fois, on dit, dans la littérature, elle a été conquise par...
Ouais. Et pas dans la littérature, dans le langage quotidien, courant. Des fois, les termes qui sont employés, ils ont un sens qui est... Quand on fait l'étymologie de ces mots... prendre une femme, hein, si on y réfléchit bien, c'est énorme, quoi, je veux dire, et c'est souvent comme ça. Le père donne la main de sa fille.
Ouais. Tu sais que dans la langue française, épouser, ça se dit aussi prendre femme.
Oui,
prendre,
oui,
femme.
Oui, prendre femme.
Eh bien, Mathurcus, es-tu toujours le même ? Ouais, je sens trembler, lui dire je vous aime.
Mais quoi ? Déjà, je tremble. Et mon cœur agité craint autant ce moment que je l'ai souhaité. Bérénice, autrefois, m'était toute espérance. Elle m'imposa même un éternel silence.
Je me suis tué 5 ans. Et jusqu'à ce jour, d'un voile d'amitié, j'ai couvert mon amour.
Dois-je croire au Coran où Titus la destine ? Elle m'écoute mieux que dans la Palestine.
L'épouse ? Ai-je donc attendu ce moment ? pour me voir encore déclarer son amant? Quel fruit me reviendra d'un aveu téméraire? Ah, puisqu'il faut partir, partons sans lui déplaire.
J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ses larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesse même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant tu bois et tu veux bien de moi. Non mais j'hallucine, hein. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve. Soit je la quitte en lui disant: garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Bébé, c'est à moi fort que j'oublie que c'est le chaos. Autour c'est le chaos. Regarde-nous, le destin pas honte. Les dieux ont pas honte. J'ai tout foiré cette année, c'est toujours en chantier. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuit. Nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. Parce que c'est comme de la drogue, on a de quoi planer. Sur son dos, mon corps, je fais de l'aquaplaning. Le problème, c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, garde le sourire. Plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai.
Et c'est avec Trop beau de l'homme pâle que nous nous quittons ce soir. Merci à Christophe, Olivier, Patrick, Richard, Thierry, Teddy, Taoufik. Merci à Sarah Louis, Jean-Michel Grémillet et aux équipes de la prison centrale d'Arles. L'heure bleue a été réalisée par Lilian Allôme avec les conseils musicaux de Jean-Baptiste Audibert. Avec à la technique ce soir, Julien Dumont. J'espère que nous nous retrouverons demain pour Racine en prison. Épisode numéro 2. Après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec Mishka Assayas pour son Very Very Good Trip.